Nous sommes les Marseillais et nous allons gagner. Allez, l'OM. Meriem hier a inscrit le but de la victoire à la 74e minute contre une grosse équipe berlusconienne. Vive Marseille, d'où je viens. Vive le football, dopé au fric sans doute, mais surtout, vive le tribunal de grande instance de Marseille qui condamne l'Unédic à rembourser les 35 chômeurs radiés depuis début janvier. Ça, c'est une grande victoire. C'est Marion de Toulouse.
Salut Daniel, c'est Patricia de Albi dans le Tarn. Je t'appelle parce que aujourd'hui, j'ai vu une bonne nouvelle à la télé. Je suis contente pour une fois qu'il y a une bonne nouvelle au journal de 20h. Les chômeurs ont gagné, les recalculés ont gagné. Même si l'Unédic fait appel, tant pis, c'est une belle victoire. C'est vraiment très chouette. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire la fête. Je bosse à la NPE et puis demain, ça va me donner du courage pour dire aux gens qu'il faut se battre, qu'il faut pas se laisser faire, que c'est pas le monde dans lequel on veut vivre. Et c'est pas ça qu'on veut. Mais là, c'est une belle chose ce soir, je fais la fête. Salut, ciao.
Petit pamphlet sur le jugement juste contre l'Unédic. Tout avait été fait pour soi-disant faire des économies. 200 000 personnes se sont retrouvées dans une situation précaire. Et moralité, il y a une justice, tout au moins si elle gagne en appel. Nous verrons. Mais tout ça, ça va peut-être coûter 2 milliards à l'Unédic. Donc bravo, c'était une belle réforme pour économiser des sous. Voilà, au revoir à tous, bonne journée.
Je me réjouis beaucoup parce que pour une fois, la justice a donné raison à tous ces gens-là. Et puis je vois que on peut quand même porter des coups au capital et ça nous donne confiance dans ce qui peut se produire dans notre pays, voilà. Alors, je suis très contente. Allez, au revoir.
Bravo aux chômeurs recalculés, exclus des assédics comme des malpropres, par des syndicats corrompus par le MEDEF. Ils ont gagné. Ils ont retrouvé leur dignité face à une décision politique qui tentait de les exclure et en faire des marginaux. L'État, et en l'occurrence le gouvernement Raffarin, leur avait volé son devoir de solidarité et de protection sociale. Ils ont gagné avec le retour de leurs droits grâce à la CGT. Bravo. Contrairement à ce qu'on affirme, de l'argent il y en a. Il y en a même beaucoup. Qu'on leur retourne à l'argent donné à toutes ces entreprises qui licencient et qui décentralisent ailleurs, là où la main-d'œuvre à bon marché est exploitée. Que le produit de l'impôt sur la fortune renfloue les caisses des assodiques. Cet argent, c'est le leur. Ils l'ont produit à la sueur de leur front. Que l'on supprime le travail à temps partiel par du travail à temps plein pour renflouer les caisses des assodiques. Voyez-vous, de l'argent, il y en a. Il suffit d'une volonté politique pour l'imposer. Salut Daniel et à toute son équipe, Claude de Sucy-en-Brie. Merci.
Je suis très 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 heureux pour tous ces chômeurs en fin de droit qui ont gagné leur procès du côté de la région PACA. J'espère que tous les autres procès vont aboutir de même. Et vraiment, ça m'a fait extrêmement chaud au cœur. J'étais dans ma voiture, j'ai poussé un immense cri de joie. Vraiment, je suis très heureux. Ça me rend aussi heureux, voire peut-être plus même, qu'un bon film de Robert Guédiguian. D'ailleurs, ça mériterait même, un film de Robert Guédiguian. Tellement cette histoire me plaît. Voilà, à bientôt. Merci à tous.
Salut Mermet, nous feignants chômeurs, nous soutenons activement tous les salariés, notamment les travailleurs de la grande distribution qui ne veulent pas travailler le dimanche. En effet, ne perdons pas notre vie à la gagner et espérons que l'appel de l'auditeur d'hier sera suivi. Effectivement, tous les feignants, tous les chômeurs sont cordialement invités à venir manifester contre l'ouverture du magasin Castorama d'Anglette à 10h ce dimanche devant ce dernier. Dans la rue les feignants, ciao et merci à la basse si j'y suis.
Et les feignants et les chômeurs ne perdent pas toujours, il n'y a pas toujours de mauvaises nouvelles dans la base où j'y suis. C'est pas tous les jours plombant, même si ce n'est qu'un début, mais il y a du bonheur sur le répondeur, en tout cas de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37. Qui eût cru à l'automne, lorsque nous parlions de ces fins de droit, de ces recalculés, et en suivant les maigres manifs, que les choses se retourneraient de cette façon. Et ben voilà, on est bien content. Alors aujourd'hui, vendredi, on souffle un peu. On a parlé de Rwanda, on a parlé de dopage dans le cyclisme, dans les deux dernières émissions, des choses assez lourdes. Et là, on va revenir un petit peu en arrière, dans le rétroviseur. On va retourner en 1997 au Bénin. au Bénin. Oui, Cotonou, Bénin. Pourquoi? Parce que on va parler de foot. On va parler de foot et puis on va parler de vaudou. Le vaudou, de façon, le foot et le vaudou de s'envoyer en l'air, hein, et de façon de sortir de soi. Comment on se dope dans le foot au Bénin? Alors on va voir que on dope le foot. C'est le foot lui-même qui est dopé. Et comment? Et comment? Et puis dans les façons de sortir de soi, puisqu'on disait avec le dopage l'homme sort de lui, etc. Eh ben le vaudou comme moyen de sortir de soi pour tutoyer l'innommé, on va dire, pourquoi pas. Et la transe, on a parlé dans le dopage de second, d'état second, etc. On va voir comment fonctionne la transe dans ce pays du vaudou qui est le berceau. Du Bénin, pardon, qui est le berceau du vaudou. Auparavant, vos commentaires sur le dopage, et puis ensuite, on part.
Bonjour Daniel, bienvenue au Doping World. Et oui, le cyclisme est un sport dur, de souffrance à chaque coup de pédale, à chaque changement de braquet, d'attaque, de contre-attaque, de relais appuyé, le vent dans le nez. Ou il n'y a qu'un seul vainqueur sur 200 coureurs qui souvent se cache et jaillit dans le final, ou bien simplement sur la ligne d'arrivée. Petite devinette, qui a dit, lors du Tour 98, lorsque son directeur sportif arrête ses coureurs et les fait monter en voiture, « Il est physiquement impossible de parcourir en 3 semaines la distance de 4000 km à la vitesse d'une mobylette en ne buvant que du jus d'orange. » Alors, eh bien, c'était Laurent Jalabert de l'équipe Hansay. Une autre petite devinette. Qui a dit, lorsqu'un journaliste lui pose cette question, « Vous avez grimpé ce col à une vitesse incroyable aujourd'hui. Comment avez-vous pu faire ?»« Je l'ai fait pour réduire mon agonie. » Réponse de Marco Pantani, alias le pirate. C'était Gino des Alpes-Maritimes. À bientôt, Daniel.
Bonjour, j'ai écouté les deux émissions inhérentes au dopage sportif. Alors effectivement, on parle beaucoup du cyclisme, c'est un fait, mais dans tous les sports, c'est la même chose. Notamment, et ce serait bien de le faire savoir, que dans la voile, que ce soit dans la Formule 1, que ce soit les tennisman, on sait bien que c'est exactement la même chose, sauf qu'effectivement, c'est beaucoup plus populaire, donc on en parle moins, il y a peut-être moins d'argent, etc. Et il faut le faire savoir. Et voilà, merci, au revoir.
Oui, bonjour. Je voudrais dire, c'est pas grave si les jeunes se dopent à tort et à travers et qu'ils peuvent plus pousser un petit caddie au supermarché après avoir été champion de lutte. Tout ça, c'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est qu'ils fument pas de cannabis. Pourquoi? Parce que ça fait 5000 ans que personne n'en est mort. Parce que même selon le Larousse des plantes médicinales, c'est recommandé dans la quasi-totalité des maladies. Et que, selon les hindous, c'est de la nourriture pour l'esprit. Alors, faudrait surtout pas qu'ils touchent au cannabis. Vous pensez bien, ils risqueraient de réfléchir un peu de trop. Oui, c'est pas très bon tout ça.
Loïc Hervouette, directeur général de l'école supérieure de journalisme de Lille, a le plaisir d'inviter les anciens de l'école à la conférence que tiendra Monsieur Gérard Mestrallet, président directeur général de Suez, devant les étudiants actuels de l'école, le lundi 3 mai 2004 de 16h à 18h. Monsieur Mestrallet traitera en particulier de la stratégie de recentrage du groupe vers les métiers de l'énergie, de l'eau et de l'environnement, et de son retrait du secteur de la communication. Ceci sous le double angle de l'élargissement de l'Europe et de l'intégration des principes du développement durable. C'est beau la formation des petits soldats du journalisme. Ciao.
Deux lumières dans la nuit à Cotonou, dans le quartier de Placodie. Deux lumières proches en forme de fable. Une image fable. pour commencer ce voyage au Bénin. Sur une chaise, une télé. Ah, personne ne regarde. Si, un gars accroupi qui se sert de la lumière de la télé pour réparer un gros pneu. Il est réparateur de pneus. Et la lumière de la télé, c'est pratique finalement pour coller les rustines. Voilà pour la première lumière dans cette nuit de Cotonou. Juste à côté, une autre lumière qui vacille, elle aussi. C'est la lueur d'une bougie. Au coin du mur, dans une cuvette d'émail bleue, pleine du sang rouge d'un poulet, un initié au vaudou est en train de baigner dans le sang des fétiches, c'est-à-dire des statuettes. Et il fait des incantations à voix basse. Voilà, deux lumières dans la nuit de Cotonou, Bénin, ex-Dahomey. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous habitons une terre de contraste. Ça veut dire qu'il ne faut pas confondre modernité et tradition. Ça veut dire qu'il y a un fossé entre les civilisations. Ça veut dire que le dialogue est impossible. Ça veut dire qu'il y aurait une sorte de fracture mondiale. Peut-être que vu de là-bas, on se comprendra. En route, pour une Afrique non pas souffrante, celle des charniers, non pas exotique, folklore, magique, masque nègre en forme de parapluie, non pas une Afrique terrain de nos petites expériences exotiques, charitables et généreuses. Non, cette Afrique dont on revient avec l'énergie, avec la vie, avec la jubilation malgré tout de vivre et d'en mettre jusqu'au plafond. Tout ce dont l'idéologie de domination et donc de culpabilité dont nous sommes imprégnés jusqu'à l'os nous a empêchés de voir, d'aimer et de partager. C'est vers cette Afrique-là que nous partons aujourd'hui sur France Inter, là-bas si j'y suis, au Bénin.
Des mobs comme celle-là, il y en a 30 000 dans Cotonou. Ouais. Ce sont des taxis, des petites motos-taxis. Ça roule dans tous les sens, c'est pratique, c'est pas cher, ça transporte tout, partout. Les gars portent des blouses jaunes avec des numéros d'immatriculation imprimés dans le dos. Petit boulot, grande débrouille, ça transporte tout. Du fonctionnaire sec à la mama bien en chair avec 3 tonnes de mangue, de bananes, de chèvres et de poulet sur la tête, ou bien alors le genou branché, visière en arrière, avec sa radio sous le bras qui crache Jonas Pedro ou Angélique Kidjo ou Africando. Ici on adore, quoi non, la salsa, eh oui, on adore cette musique. Alors évidemment, ces mobs, ces moteurs à deux temps, ces taxis-motos font une pollution d'enfer, ça pollue terriblement, surtout quand le temps est humide et chaud, comme les putes de Jonqué, ou bien rêche, quand souffle l'harmattan et que tout est rouge poussière sur la lagune. Les arbres sont si rouges alors qu'on raconte que c'est le sang des morts, ce rouge. Les âmes des morts descendent d'Abomey, par le fleuve Ouémé pour gagner la mer, et chaque mort passant dans la lagune laisse un peu de son sang qui va rougir les écorces. Cotonou, c'est la lagune des morts. Vous avez vu, on est passé en une minute des mobilettes, de la circulation, de la vie de la ville à tout de suite au sacré. Eh bien, c'est la même chose. La mobilette n'est pas profane. La télé n'est pas profane. Tout est sacré. Rien ici n'est inanimé. Tout est animé. Animé, c'est l'âme. Anima. Anima, c'est l'âme. Donc rien n'est animé. Pourquoi on est au Bénin ? Oui, c'est pour le vaudou, pour essayer de piger cette force extraordinaire qu'est le vaudou. 50 millions d'hommes, de femmes, d'enfants à travers le monde sont concernés par le vaudou. Le vaudou est parti d'ici, est parti du Bénin avec les esclaves, par la côte des esclaves où nous irons. Le golfe de Guinée, c'est la côte des esclaves. On ira à Ouida, on ira à Porto Novo. Et ces malheureux esclaves sont partis vers la Caraïbe, vers les Amériques, emportant ce culte, cette religion, parce que c'est une religion, avec eux. On va d'abord voir dans la vie quotidienne. On va au stade de Cotonou. S'il y a une chose que les Béninois, comme tous les Africains, adorent, évidemment, c'est le foot. Et là, c'est un petit match, tranquille, un après-midi, comme ça, les tribunes sont à moitié pleines, seulement. Ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ça marche. Les fétiches, les gris-gris, les sorciers, le rôle du vaudou dans une chose aussi quotidienne que le foot. Voilà, monsieur Asino, qui se trouve là. Il est superbe, il est souriant, il est entraîneur, il fut gardien de but, il est entraîneur, non seulement entraîneur, mais il est également, figurez-vous, agent de police.
Là, il y a les dragons qui sont en orange noir,
ouais.
Ce sont eux qui prennent la balle là. Et les verts et blancs, c'est les postels.
Postel, c'est quoi?
L'équipe de la poste.
Ah, poste téléphone. Donc c'est un match qui compte pour quoi? Poste téléphone
pour contre Dragon. La poste, c'est pour le championnat national.
Ah, mais c'est important alors.
Ouais. C'est parce que là, il y a eu une faute sur un joueur et le public désapprouve l'attitude. Ah oui, c'est une grande passion pour nous.
Racontez-moi comment vous préparez un match de foot ici, à côté.
Bon, en dehors de l'entraînement, qui est la préparation normale d'un match,
ouais, ouais.
Bon, psychologiquement, et certains ont bien besoin d'un autre soutien. Et ce soutien, on l'appelle parfois chez nous le beau, c'est le gris-gris, quoi. Et dès qu'on a un match, bon, les vieux vous préparent le match en vous disant si vous avez tel produit sur le corps, et vous ne serez pas blessé par exemple, vous aurez beaucoup de chance, vous tirez et vous gagnez le premier, ou bien on tire vers votre poteau. L'adversaire qui veut tirer dans votre poteau voit le poteau, mais laisse qu'il finisse de tirer, il tire à côté.
Alors, on m'a dit par exemple qu'il arrivait qu'on transporte toutes les chaussures.
Oui, vers un charlatan. On transporte toutes les chaussures, on les expose quelque part, les maillots également, on les met là. Il met peut-être quelques poudres, il met
les chaussures.
Aussi les chaussures. Il peut mettre il peut bénir ça de quelques eaux et il prononce des incantations là-dessus. Dès que le joueur prend ses chaussures, il pense que c'est des chaussures qui lui donnent un peu plus de force.
Ah, comme s'il y avait des ailes après les chaussures.
Voilà.
Ah.
Donc, bon, je crois que
il va courir plus vite.
Il va courir plus vite.
Plus de précision.
Il va cogner peut-être son adversaire. L'adversaire tombe et lui, il s'en va. Parce que il y a plein de trucs comme ça en Afrique. Dans le bon vieux temps, et pendant que moi j'étais encore gardien, j'avais un guérisseur qui m'avait donné une aiguille. Dès que vous rentrez dans un poteau,
Dans un but.
Dans vos 7 mètres en deux, vous enfoncez l'aiguille et au côté gauche, à côté du montant gauche. Ça multiplie vos chances. C'est comme si vous attirez la balle vers vous. Et ça permettait quand même, en ce moment-là, de faire beaucoup d'espoir. Mais dès que vous connaissez l'aiguille, par exemple,
ouais,
qui fait ça,
ouais,
il y a peut-être un autre qui connaît un produit qui jetait dans ce poteau-là, anéantit l'action de l'aiguille. Et vous revenez à égalité.
0-0.
0-0.
Alors, dans les tribunes, les oui, supporters, eux oui, aussi, ils ont des choses magiques. Qu'est-ce qu'ils font?
Bon, vous constaterez sur certains terrains, il y a des sectes
des groupes de féticheurs qu'on amène au terrain et qui viennent comme des supporters. Le groupe de féticheurs arrive avec leur tam-tam sacré, avec les paroles sacrées, les chansons sacrées. Et ils viennent chanter ça au stade. Et cela remonte le moral à tous ceux qui y croient.
Aux supporters.
Aux supporters et aux joueurs. Oui, les gens trouvent que vraiment si tout ça là est mis en branle, c'est que la victoire est de notre côté.
Ouais. Mais alors, est-ce que ces féticheurs-là peuvent jeter des sorts pendant le match? Est-ce qu'ils peuvent jeter des sorts comme ça au...
Directement, c'est difficile.
Pourquoi c'est difficile?
C'est difficile parce que celui qui est en train de jeter le sort, lui aussi, craint les revers de ce sort-là. Donc il ne jette pas n'importe comment. Le gris-gris est forcément important en ce sens que nous sommes tous issus de familles ayant ça ayant ça à l'origine.
Bien sûr.
Le gris-gris. Bon, donc, comme quand vous voulez jouer, on va vous dire pour vous maintenir en forme, pour avoir de chance, pour éviter que votre équipe ait des comportements incorrects. On peut vous faire certaines choses pour que vous puissiez aller à ces matchs-là. Mais beaucoup plus maintenant, c'est ça. Ce n'est plus pour aller forcément gagner. Sinon, nous avions dit, les charlatans auraient créé leur équipe et auraient pu gagner des matchs. Mais, vous savez, l'équipe n'est pas seulement que les joueurs et l'entraîneur. Il y a les dirigeants. Et qui ont une honorabilité à défendre. Et cette honorabilité les amène à faire des choses à l'insu parfois des joueurs. Nous avons chez nous, par exemple, quelque chose que nous appelons le tchakatou. Ça, c'est tout comme un fusil invisible. Ah. Un fusil invisible. Et vous êtes en train de jouer, celui qui est maître de ce tchakatou peut, à distance, vous neutraliser. Il peut agir sur vous par des radiations que vous ne verrez pas. Bon, mais ça... Comme vous ne pouvez pas savoir toujours comment l'autre s'est protégé, en l'envoyant, vous pourrez atteindre votre joueur.
Ah, c'est-à-dire que vous avez...
La cible peut changer.
Par exemple, vous avez un tchakatou, et moi je me suis mis une sorte d'armure contre le tchakatou.
Voilà. Dans ces conditions-là.
Donc ça peut rebondir.
Ça peut rebondir sur sur mon partenaire.
Ah.
C'est ça. Mais ça ne continue pas beaucoup sur le terrain. Parce que pour que ça vienne sur un terrain, c'est tout un scénario.
Quel est le scénario?
Ah, il faut lui trouver le cadre idéal pour que le gars, celui qui est le propriétaire du tchakatou, puisse s'exprimer. Or, et dans les matchs, nous, la police, on arrive par exemple au terrain, on nettoie tous les alentours. On demande à tout le monde de monter dans les gradins. Or, dans les gradins, lui ne peut pas avoir son matériel et opérer.
Ah, parce que le tchakatou, c'est un matériel qu'il faut avoir avec
c'est ça. C'est un matériel qu'il faut avoir.
À quoi ça ressemble?
Qui n'est pas grand, qui n'est pas grand. Ça peut tenir dans un sac. Ça peut tenir dans un sac. Mais pour ne pas blasphémer, pour ne pas et dévoiler des choses qui demeurent secrètes jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas vous dire comment c'est confectionné.
Ah, mais vous le savez, mais vous ne pouvez pas me le dire.
Je sais. Il y a tout un parapluie d'ingrédients dedans.
Alors voilà comment ça marche dans le foot à Cotonou, mais c'est rien du tout. Et là, on nous dit des petites choses comme ça pour Yovo, pour le blanc-bec qui arrive. C'est bien plus grave que ça. Ça va bien plus loin que ça. Et je vous le disais, toute la vie, tous les moments de la vie sont ainsi plein de ces pratiques. Les féticheurs de Cotonou, de Nantokpa, le marché central de Cotonou, vous raconte comment, par exemple, si vous avez un problème avec votre patron qui veut vous licencier, bon, votre patron vous virez, oui, le chômage gagne aussi l'Afrique, et ben quoi faire? C'est très simple, vous apportez une mèche de cheveux du patron, s'il fume, vous apportez des mégots, et puis si possible sa photo, vous piquez la photo du patron, vous amenez tout ça au féticheur de Dantokpa, et voilà, pas de problème, il est capable de paralyser à distance chaque fois qu'il voudra vous licencier. Il se met à vous licencier, par exemple, il signe des papiers de licenciement, paf, hop, il est paralysé. Ça s'appelle l'ancien scud. L'ancien scud, oui,
comme pendant la guerre du Golfe. Je vais te lancer un scud. Alors hop, je te jette un sort, comme ça. Je le fais pas moi-même. Je vais voir un magicien, un sorcier, un féticheur, selon que j'utilise la partie ensoleillée du vaudou, la partie noire de ces croyances. Et j'envoie un scud, c'est-à-dire que voilà, vous pourrez rien faire, vous serez paralysé, peut-être. Je vais vous empoisonner, je vais voir. On plaisante pas du tout, c'est nous les yovos qui plaisantons avec ça, mais là-bas on ne plaisante pas du tout. Et pour revenir au foot, on nous a dit à plusieurs reprises que les entraîneurs d'équipes françaises ou européennes viennent à Cotonou, et oui, pour essayer d'acheter très cher les pouvoirs de certains féticheurs qui sont donc capables, depuis Cotonou, d'envoyer un scud sur, je sais pas, l'équipe d'Auxerre ou le PSG. Pour l'instant, on assiste à ce match à Cotonou et pendant la mi-temps, essayons de nous approcher de ces sacrés gaillards que sont ces joueurs.
Tu peux trouver un joueur qui n'est pas en train de jouer tout de suite.
Il dit qu'il veut parler.
On va y voir, on va y voir.
C'est notre chose à nous en Afrique. Donc on y croit sincèrement, bon. On ne peut pas laisser tomber ça.
Ouais.
Même si, bon, on se dit maintenant que c'est le travail qui paie. D'un autre côté, on pense aussi que ça peut toutefois dire. C'est aussi un jeu. En général, il y a des balafres qu'on fait au niveau de la poitrine.
On se fait des balafres sur la poitrine.
Oui, des choses
avec
comme
quoi?
Ça. Avec une lame, on met des choses dedans. Bon.
Des scarifications.
Oui, des scarifications. Hein?
On porte encore des bagues. Des bagues.
Là, tu portes des bagues,
non? Non, moi, c'est pas. Non. Des bagues magiques.
Des bagues magiques.
Des poudres magiques.
Des poudres magiques.
Des poudres pour anéantir l'adversaire.
Des cordons à mettre.
À la ceinture.
Des cordons que tu mets à la ceinture.
On met le moins.
Non, mais pas toi.
On met à la ceinture pour être soulagé. Pour que les passes soient précises et les têtes soient tendues.
Il y a aussi toujours des fils qu'on met autour du bras.
Oui.
Et là, quand tu transpires, si ta sueur arrive à tomber sur ton adversaire, partout où tu passes en duel avec lui, il te laisse passer.
Oh,
costaud. On fait encore comme chewing-gum. Comme chewing-gum.
Chewing-gum.
Comme chewing-gum, tu mets dans la bouche et l'adversaire qui est là t'oublie. Il va t'oublier.
Il te voit plus.
Il te voit plus. Et tu le dépasses 5 mètres, 10 mètres avant qu'il ne te voit. Tu es déjà auprès des buts.
Je suis un goal, moi, mais il arrive des matchs où je constate l'avancement. Juste au début de la rencontre, quand il vient vers moi, il me lance des choses dans le filet.
Il te lance quoi?
Il me lance des choses dans le filet, des produits, sinon, bon, des poudres parfois
pendant,
dans le filet.
Pendant le match?
Pendant le match. Au moment où ils font une contre-attaque, lui vient dans la petite surface, il jette ça dedans. Histoire de lui permettre de m'aveugler et puis de marquer des buts, mais ça ne marche pas toujours.
Comment tu te défends, toi, de ça?
La croyance. Si tu crois en ça,
c'est un problème.
C'est terminé. Tu es juste là, abattu psychologiquement. Ne crois pas au fétiche. Joue tes contre-attaques.
Moi, on m'a raconté des histoires de chaussures qu'on emmène chez le charlatan.
Oui. Et quand, si tu portes de pareilles chaussures, tu tires, le gardien ne pourra jamais arrêter ça. Même il y a des tiges qu'on met dans les bars.
Des tiges que tu mets dans tes chaussettes?
Des écorces, quoi, des racines d'arbres.
Tu es léger, tu as le poumon.
Avoir le poumon, c'est quoi? Le souffle.
Souffle, tu as le souffle et tu es léger.
Oui.
Les fétiches restent dans la tribune. Les fétiches là, ils sont dans la tribune. Ici là, c'est la dirigeant seulement. Tu vas dans la tribune, là, tu vas trouver les fétiches.
C'est lui qui nous prépare les gens.
C'est lui.
C'est
le préparateur. Ouais. Moi, je suis un kiné. Je suis le soignant de l'équipe. Moi, vraiment, nous sommes en Afrique. Comme c'est inculqué dans le crâne des Africains qu'il y a quelque chose de ce genre, il y a certains qui y croient. Ben, à vrai dire, c'est le travail qui compte. Le plus souvent, la plupart des équipes le font à distance, dans l'arrière-cour. Bon, et puis au niveau des joueurs, nous n'avons jamais accepté qu'on les perturbe. Moi, en tant que kiné, on est farouchement opposés, comme une ligne. De toute façon, toucher à l'intégrité du corps humain avant le match, je suis contre. Parce que d'autres font les préparations à partir de là-bas. Donc nous, on n'est jamais d'accord.
Quelle préparation?
Mais vous parlez de fétiches, non?
Qu'est-ce qu'ils font comme préparation exactement?
Oh là là! De toi, je ne peux rien dire.
Ah bon?
En tout cas, en tant qu'Africain, il m'est difficile de me prononcer là-dessus.
Ouais, enfin, vous savez, hein? Bon, chaque pays a ses secrets. Vous parlez de fétiches. Hein? Bon, pour nous, par exemple, le fétiche que nous, on connaît, hein? C'est le beau spectacle pour nous.
Ouais.
Dis-lui la vérité, si ce que tu sais. Hein, c'est pas ça qui va enlever le bigu que tu as.
Impression d'une région prospère et forte, aux habitants intelligents, qui pourront peut-être, d'ici pas tellement de temps, donner du fil à retordre aux actuels occupants. Ainsi écrivait Michel Léris en 1931, traversant ce qui était alors le Dahomey, et comme il l'a raconté à travers ce livre qui s'appelle « L'Afrique fantôme ». Les occupants de l'époque, eh ben, c'était les Français, c'était les colonisateurs français, les administrateurs coloniaux. Ces pays furent longtemps occupés, diversement occupés. Après l'indépendance, il faut rappeler que le Bénin, qui s'appelle comme ça depuis 1974, a été jusqu'en 1990 ou 11 un pays marxiste-léniniste. On appelait ça le laxisme béniniste, d'ailleurs, à un moment. Mais enfin, il est possible que les occupants aient changé, mais ceux qui sont toujours là et seront là très très longtemps au Bénin et dans cette région, c'est évidemment les dieux. Xangô, chante Angélique Kidjo. On a vu la présence des esprits, des divinités dans un stade. Alors on va essayer de comprendre un peu mieux ce qu'est ce vaudou. Il y a des analogies avec nos religions à nous. C'est pas si éloigné, si mystérieux. Il n'y a pas tradition d'un côté et modernité de l'autre, évidemment. Il y a des hommes qui, sous certains climats, à certains moments, tâchent de donner des explications aux énigmes. L'homme ne se résout pas à ne pas apprivoiser le hasard, à ne pas développer des stratégies avec les mystères, qu'il soit un philosophe, qu'il soit un scientifique, ou bien qu'il soit un croyant. Voilà Eustache Prudencio, qui est un écrivain, qui est un homme très respecté dans son pays, qui est un intellectuel et qui nous donne une définition. Et c'est pas facile du vaudou.
Selon les ethnies, vous avez plusieurs significations du vaudou. D'abord, dans le mot vaudou, vous avez le mot dou, qui signifie une espèce d'énigme, quelque chose qu'on ne comprend pas. Quand le bokono, le charlatan, veut vous faire une consultation, vous faire parler l'oracle, comme on dit, le fa, eh bien, il y a certains signes qui se présentent. Il jette ses demi-noix de pommes ou ses coris, ou il trace de petits traits. Et il y a une certaine chorégraphie qui se présente. C'est ça qu'on appelle le doux. Vous, profane, vous ne comprenez pas. Mais lui, il peut vous interpréter ce doux. Mais l'idée de puissance de Dieu, c'est une énigme vraiment à part. Ça sort du commun. Ce doux est à part. C'est ça qu'il faut entendre par vaudou. Vaudou. Donc c'est un esprit qu'on ne comprend pas. Au-dessus de ce vaudou, il y a, bien entendu, un vaudou beaucoup plus fort encore, et qui est comme un souffle, un esprit, et qui n'est pas sur terre. Cet esprit-là, dans le milieu fond, ou dans le milieu mina ou peda, on l'appelle yé, oui, yé. C'est l'ombre, quelque chose qu'on ne saisit pas. Oui, petit, infini, un petit. Et pour parler de Dieu qui est au-dessus de tous les vaudous, eh bien, on allie parfois en disant vaudou Yahweh. Oui.
Origine du vaudou, très difficile à déterminer, malgré toutes les recherches qui sont faites depuis longtemps. Le vaudou et cette région de l'Afrique attirent depuis très longtemps ethnologues, chercheurs, anthropologues. C'est une nourriture, c'est une matière première, c'est une matière à réflexion depuis très longtemps pour nous, et on n'arrive pas vraiment à, avec nos façons de vouloir classer, ranger, ordonner, etc., à trouver une origine bien précise au vaudou. Et aussi parce que nous voulons absolument qu'il y ait des traditions. Et pour nous, la tradition, c'est quelque chose d'immuable. Eh bien non, rien n'est plus mobile, rien n'est plus mouvant, rien n'est plus fait de vie et donc de modernité que ces traditions. Cette tradition qu'est en l'occurrence le vaudou. Par exemple, dans la période marxiste du Bénin, eh bien des personnages, je sais pas moi, peut-être Lénine ou Mao Tse-tung ou je ne sais quel dignitaire de ces époques-là, eh bien faisaient partie du vaudou, tout comme dans le vaudou haïtien. Alors sont les figures du christianisme, c'est la Vierge Marie, c'est les apôtres ou les saints qui sont intégrés au vaudou. Il se pourrait bien que nous qui nous posons les problèmes d'assimilation et d'intégration ce soir, en fait, de l'autre côté, que ça marche très bien. C'est nous qui nous faisons intégrer, c'est nous qui nous faisons assimiler et nos cultures aussi s'intègrent dans le vaudou, au point que on voit par exemple des divinités qui sont très proches des divinités de l'Inde dans ce vaudou. Quand même, très souvent, les chercheurs voient des origines dans la Méditerranée. Oui, il y aurait une origine commune aux mythologies et aux religions grecques puis romaines et aux religions, à cette religion qu'est le vaudou. Et c'est vrai qu'il y a des analogies dans les panthéons, dans les personnages, dans ce polythéisme omniprésent et à échelle humaine. Il n'y a pas cet écrasement par un dieu suprême et rien entre lui et nous. Il y a au contraire un homme qui tâche d'être non pas comme Dieu, mais comme des petits dieux intermédiaires qui se haussent, qui se hissent et aussi qui, lui, connaissant ses divinités, c'est-à-dire ses vaudous, sait à quel point les vaudous lui confient de temps à autre comment ils aimeraient à redevenir des hommes, des humains, avec leurs défauts. Voilà comment notre ami Eustache Prudencio explique la, entre guillemets, genèse, c'est-à-dire l'origine du vaudou.
Vous avez le soleil, vous avez la lune, les montagnes, la mer, la forêt, le vent. Ah, ça paraît bizarre tout cela. À travers toutes ces manifestations, il doit y avoir un esprit fort. Donc, il faut s'attirer la protection de ces esprits forts ou bien leur demander des faveurs. Donc, il faut nécessairement adorer ces manifestations-là. Ainsi, ils ont commencé à adorer soit la foudre, le tonnerre, Reviosu, soit la mer, voyez-vous, le Torosu, soit la forêt, une forêt dense, sombre, c'est une forêt bizarre, on respecte, une lagune où il y a une lagune poissonneuse, un lac poissonneux, est digne d'adoration. L'arc-en-ciel, on l'adore. Même les jumeaux sont considérés comme des dieux. Tout cela parce que l'Africain, au départ, avait peur. Sa surprise d'être noyé à travers tout cela, ça l'oblige à vouer un culte à toutes ces bizarreries qui l'effraient. Et à travers cela, eh bien, il a trouvé le vaudou, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas saisir et qui est à côté.
Le vaudou fait des éléments des divinités, transforme les éléments en divinités. Le vaudou transforme les ancêtres également en divinités. Je parlais avec un ami bénin, je dis, qu'est-ce que tu pourrais me faire comprendre? Est-ce que moi, par exemple, alors on cherchait. Et à la télé, il y avait un hommage à Dalida. Alors on faisait pas attention, il essayait de me faire comprendre. Et il dit, ben voilà, un vaudou, Dalida, formidable, c'est un vaudou. Elle est morte, Dalida est morte, elle devient une ancêtre, elle devient votre mémoire collective, à vous, Français. Et puis, là, vous éprouvez le besoin de lui vouer un culte. Vous voudriez être Dalida, vous admirez, vous adorez Dalida, et Dalida, à travers... son suicide, par exemple, montre à quel point, peut-être, c'est une interprétation, elle aurait bien voulu être quelqu'un d'ordinaire et non pas une petite divinité comme celle qu'on avait faite. Petite divinité ou grande divinité dans le vaudou. Chacun, dans chaque maison, dans chaque concession, on trouve alors un hôtel avec les fétiches. On trouve aussi la Saint, qui est un petit reposoir où on fait le culte des ancêtres, où une personne, par exemple, de la famille, va être vouée complètement aux prières, au culte. C'est un plein pied permanent avec le sacré, avec la mémoire, avec l'inconscient. Et toute somme toute, ça devrait être ça, la poésie. Moi, je vois une définition comme ça de la poésie. Mais je m'oublie et on va vers Placody. Placody, c'est un quartier de Cotonou, c'est le quartier des pêcheurs, c'est un quartier très populaire de Cotonou. Vous savez, Cotonou est un port qui marche très bien, d'énormes cargos à bord de Cotonou. C'est toute une ouverture sur la mer et sur le monde, donc il y a eu beaucoup d'influence extérieure. Et là, on va assister, grâce à notre ami Ogivon Yves Arnaud, qui est agent de sécurité à Cotonou, Bénin, à un rituel pour conjurer le mauvais sort, pour conjurer les maladies, la méningite, le palud, la fièvre jaune, qui sévissent fort dans ces régions, dans ces quartiers tout précisément. Et aussi, c'est un culte pour la pluie, pour faire tomber la pluie, pour les récoltes qui auront lieu en juillet prochain. Donc, culte vaudou à Placody, Cotonou. Alors, là, c'est un culte à un fétiche ?
Oui, un fétiche, enfin, c'est un sous-groupe, en quelque sorte, du grand fétiche Abrékété.
Abrékété ?
Oui.
C'est-à-dire, c'est le personnage qui est peint là-bas sur le mur, avec une cloche.
C'est le grand féticheur.
Abrékété. Et les gens de ce quartier de Cotonou rendent hommage ce soir à ce fétiche.
Voilà, et... Ça se fait sur des semaines. Vous voyez, ça peut durer une semaine, deux semaines.
Donc il y a les tambours qui sont là, oui. Et sur la petite place là, en terre et en sable, oui. Autour du petit arbre, il y a du public tout autour, il y a des enfants, il y a toute la population qui regarde de tous les âges, les petits devant, les grands derrière, et il y a des gens qui dansent depuis déjà un bout de temps. Et là, il y a une femme qui est en train d'entrer en possession.
En transe, oui.
Elle entre en transe.
Oui.
Elle est en train de marcher à quatre pattes. Elle a un bonnet blanc, un soutien-gorge blanc, un pantalon blanc. Et là, elle est dans un état second. Elle est possédée.
Oui, oui.
Voilà, elle est en train de marcher à quatre pattes avec les yeux révulsés.
Quand vous êtes initié, il y a une chanson principale qui vous est chère. Ouais, donc quand on... C'est le fétiche qui est en quelque sorte sur votre tête.
Ah.
Ouais, donc quand on chante la chanson, alors tout de suite, le fétiche vous...
Le fétiche vient.
Vous prend, voilà.
Le fétiche vient. Il y a une autre femme, ouais. Là, qui a été prise par le fétiche.
Oui.
Voilà, qui est en transe.
Et là, vous voyez, on ne porte pas de chaussures.
On est pieds nus, ouais.
On ne porte pas de chaussures, on ne s'habille pas. Vous voyez, c'est interdit. Ouais. C'est ça. Tout à l'heure, ils vont changer de rythme et il y aura d'autres qui rentreront en transe.
Ouais. Alors, est-ce que c'est bon d'entrer en transe? Est-ce qu'on est heureux d'entrer en transe?
Non, on n'est pas heureux puisque vous pouvez faire... vous pouvez vous blesser, ouais, vous pouvez... C'est-à-dire, vous ne vous possédez pas.
On considère que vous êtes chevauché.
Voilà.
Vous êtes chevauché, oui. Par le loi.
Oui.
C'est
ouais.
Ça.
Vous faites de n'importe quoi, ouais, vous agissez sans vous en rendre compte. Et après, on vous amène au couvent, on vous fait ce qu'il faut et vous revenez.
We'll be right back.
pourquoi on est en train de taper maintenant?
Tambour.
Il y a trop de maladies. Hein? Sur la terre là.
Comme rougeole.
Comme rougeole. La terre là. Parce qu'il y avait un fétiche qui amène ça. Si on est en train de taper maintenant, toutes les maladies là vont partir. C'est à cause de ça, on est en train de taper. Contre la rougeole, fièvre jaune, tout et tout.
Ah, ok. Et ça, ça se fait, on fait ça tous les ans? Chaque année?
Ça dépend.
Ça dépend de quoi? Ça dépend du fa?
Oui, ça dépend du fa.
D'accord. On fait le fa, c'est-à-dire qu'on fait les coquillages, hein?
Voilà, c'est ça.
C'est ça?
Après ça, maintenant, on fait la danse.
D'accord. Et le but, c'est d'écarter les mauvaises choses.
Oui, parce que dans le quartier, s'il y avait les mauvaises choses, c'est là, on fait des tam-tams. Pour que, bon, on peut lui chercher. Que pas jusqu'à d'autres pays encore. C'est pas dans notre pays encore.
C'est une cérémonie que nos ancêtres a laissée. C'est une cérémonie féticheuse.
Hein?
Et en cas de Kessilia, le Sakwata agit sur nos sacres pas tuer nos enfants. Et on fait une cérémonie pour que les enfants ne se meurent pas. Si le Sakwata atteint les enfants meurent en désordre. Donc on est obligé de faire ce sacrifice pour racheter. Oui, pour racheter les enfants.
Donc les ancêtres ont laissé ça aux grands-parents, les grands-parents ont laissé ça à nos parents.
C'est ça.
Maintenant, nos parents nous ont laissé la main. Quand vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas.
Moi qui suis, je suis un catéchiste. Mais c'est une cérémonie que. De toute façon, c'est une obligation, il faut le dire. En tête claire, c'est une obligation.
C'est une obligation, c'est
tout
ça. Mais tu peux être catholique, tu peux
catholique
être...
Catholique, pas...
Ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir.
Tu mélanges les deux choses.
C'est clair, c'est très important.
Ah, d'accord.
Il faut le dire.
Quand le moment vient, tout le monde participe.
Ah, ouais. Même les jeunes, toi,
c'est
vous êtes jeune.
Aussi, je suis jeune. C'est pour inviter les petits problèmes du quartier.
Voilà, merci à tous. Petit retour donc à Cotonou, en Afrique, avec cette transe vaudou. Et puis, on en sait quand même beaucoup plus sur les secrets du foot africain. Désormais, merci aux habitants de Placodie à Cotonou, à l'équipe des Dragons de Porto Novo, à l'équipe Postel, à M. Azino, à Jean-Luc Aplogan, à Kenom Motorio, à Eustache Prudencio, Romain Philippe, à Sogba, Zapata, avec été... Reportage Guy Ventil, technique aujourd'hui Michel Thomas et Antoine Viossa, et Michel Thomas et Antoine Viossa, je le dis deux fois parce que je l'ai pas dit hier. Alors si j'oublie, ben je le répète comme ça, voilà, comme on est quitte. Répondeur Christophe Imbert, le numéro du répondeur c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Assistant Yann Chouquet, c'est Koyen Guyenne qui a réalisé cette émission modeste et géniale. La réclame.